Là, en fait, on fait ce qu'on fait aussi parce qu'on est capable d'avoir peur et de se mettre dans des situations pourries et d'aimer ça.
Championne du monde
40-0.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Salut tout le monde! Ça y est, le mois de mai pointe le bout de son nez. Vous aussi, vous avez des envies d'aventure après ces mois d'enfermement et de morosité parce que moi, clairement, j'ai envie de gravir des montagnes et de traverser des océans, rien que ça. Bon, pour le moment, on n'a pas vraiment encore la possibilité de le faire, donc notre invitée du jour tombe à point nommé. Elle a un nom digne d'une super héroïne et sincèrement, après cette interview, j'ai bien vite compris qu'elle n'avait pas de cap, ni de super pouvoir, mais ce qu'elle réalise avec son kayak va bien au-delà d'un super héros. C'est une humaine qui réalise des prouesses inimaginable, le tout avec une capacité d'analyse et une intelligence émotionnelle hors norme. Nouria Newman fait ce que l'on appelle du kayak extrême. Autrement dit, elle descend en milieu naturel des rivières que la quasi-totalité de l'humanité oserait à peine regarder. Après plus d'une dizaine d'années sur le circuit traditionnel, à arpenter les compétitions dans des bassins artificiels, c'est quelque chose de plus vrai, de plus humain, et surtout la découverte de lieux peu ou pas explorés qui a amené Nouria, assez naturellement, à se lancer dans des périples aux quatre coins du monde. Le mot « passionné » ici prend tout son sens. Et dans ce genre d'interview, pas besoin de parler de sexisme ou de féminisme. Dans un sport pourtant encore principalement pratiqué par les hommes, et parce que le pendant extrême pourrait faire penser que son cas est singulier et isolé. Alors oui, c'est le cas, mais là n'est pas le message. Sans même l'aborder, Nouria montre qu'avec passion et travail bien sûr, tout est réalisable. Et qu'il ne faut pas se fier à une frêle voix, un petit gabarit, ou à contrario, une montagne de muscles. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode avec Nouria, c'est que l'envie est le moteur de tout, et que nos choix de vie sont merveilleux s'ils nous rendent heureux. Salut Nouria!
Salut!
Ça va?
Ouais, et toi?
Quelle journée est vendredi matin, matinal, il est 8h. Pour la petite info, parce que les gens, généralement, quand ils écoutent les podcasts, ils ne se rendent pas forcément compte quand et comment on enregistre les podcasts. Et là, voilà, pour la petite histoire, on est dans une petite chambre d'hôtel avec Nouria et il est tôt, quoi.
C'est hyper intimiste.
Voilà. Donc ça, c'était pour que vous vous rendiez compte un petit peu du contexte. Et en tout cas, Nouria, je suis trop contente que tu aies accepté d'être ici et de participer au podcast. Parce que tu as un parcours qui est grave cool. Et je suis super contente qu'on puisse le mettre en avant et qu'on puisse discuter aujourd'hui. Voilà.
Merci.
Le truc hyper gênant du début.
Ok.
De début d'interview. Bah non, mais c'est vrai. Alors, Nouria, qui es-tu? Pour commencer ce podcast, si jamais vous écoutez le podcast, que vous tombez dessus et que vous dites, mais qui est Nouria Newman? J'ai mal dit ton nom de famille, Newman. Comment tu pourrais te décrire?
Alors, j'ai 29 ans. J'habite toujours chez mon père, parce qu'en fait, je suis kayakiste professionnelle. Donc souvent, je suis en voyage. Et puis, le reste du temps, j'ai des parents formidables qui me laissent rester chez eux entre les voyages, entre les expés, pour que je n'ai pas à payer de loyer et que je puisse payer des billets d'avion. Tu vois le film Tanguy, c'est moi.
Sauf que t'es pas tout le temps chez tes parents, du coup.
Non, pas tout le temps. Et puis, ils sont séparés, du coup, ça me permet de pas être trop intrusive.
Chez l'un ou chez l'autre.
Une semaine sur deux.
Et donc, tu l'as dit, tu fais du kayak. Maintenant, alors, on va quand même faire un petit... revenir un peu sur ta carrière avant. Ça fait toujours bizarre de dire ta carrière comme si t'avais 65 ans, tu sais, et qu'on était en train de faire un état des lieux de ce que t'as fait.
En fait, je suis jeune retraitée puisque j'ai pris ma retraite vers 26-27 ans.
Ouais.
C'est cool. Ouais.
Mais t'as pris ta retraite, mais de la compétition, on va dire, un peu plus, comment on peut dire, officielle du circuit traditionnel, en fait. Parce que t'as commencé par le kayak de slalom.
Mais en fait, j'ai commencé vraiment en club dans le système français qui est très bon. C'est-à-dire qu'on s'inscrit au club et puis on a un prêt de matériel, on a un entraîneur à disposition, ce qui est quand même assez incroyable par rapport à d'autres pays où, en fait, ils doivent tout acheter, payer des cours et du coup, ça reste un sport complètement inaccessible alors qu'en France... c'est plutôt pas mal. Mais par contre, les clubs, souvent, ils sont vraiment tournés vers les disciplines traditionnelles de compétition.
Ouais.
Parce qu'ils sont affiliés à la fédération, parce que derrière, il y a des demandes de subventions des collectivités locales et qu'il faut justifier justement ces demandes de budget. Donc, on a tant d'athlètes en National 2, tant d'athlètes en National 3, tant de jeunes. Et du coup, très tôt, en fait, j'ai fait du slalom et de la descente. La descente, j'aimais pas trop ça. Et du coup, j'ai vraiment fait du slalom jusqu'aux équipes de France, aux structures d'entraînement fédéral jusqu'en 2017. Et en 2017, j'étais trop vieille et trop lente. Et du coup, on m'a sortie de la structure d'entraînement. Je venais de faire deux saisons vraiment sans résultat, retour de blessures et puis des problèmes un peu personnels où en fait, j'arrivais pas à revenir. Et je pense que déjà, j'étais en train de vraiment transitionner vers le kayak extrême parce que ça faisait quelques années déjà, depuis 2013, où j'arrivais aux sélections pour les équipes de France de slalom en ayant déjà acheté un billet d'avion pour aller aux États-Unis. Ouais. Et je me disais, bon, comme ça, si je passe en équipe de France, je suis contente parce que je vais pouvoir faire les Coupes du Monde. Mais si je passe pas, je suis contente parce que j'ai déjà mon billet d'avion pour aller faire de la Haute-Rivière aux États-Unis. Et je pense que peut-être c'était pas le bon plan parce que j'étais jamais... investi aussi bien que ce qu'il aurait fallu, mais contre c'était bien.
Quand tu dis j'étais trop vieille et trop lente, est-ce que finalement t'en avais vraiment encore envie aussi quand t'as arrêté? Il n'y avait pas plus un truc, tu dis, parce que c'est, je trouve que ça illustre ce que tu viens de dire juste après, je faisais les compètes, mais en fait limite j'avais déjà la tête après quoi.
Ouais, je pense que j'étais déjà en fait passer à autre chose sans vraiment vouloir me l'avouer parce que j'avais encore des objectifs en slalom où tu te dis ah, quand même les Jeux Olympiques c'est quelque chose de grandiose que j'aimerais bien faire un jour, mais en même temps j'étais pas prête à attendre jusqu'en 2020 vraiment 3-4 ans
2021,
à faire
coup.
Que ça ouais.
en plus
ça aurait été 5 ans ouais. L'horreur. Et puis, j'ai eu un vrai coup dur avec la perte d'une amie qui s'est noyée en kayak et avec une grosse remise en question de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ce sport, est-ce que finalement c'est pas trop risqué, est-ce que j'ai vraiment envie de faire du slalom et d'être en équipe de France avec des gens qui... c'est un peu la guerre, quoi. C'est un peu la compétition entre les athlètes. Il n'y a qu'une place au jeu, entre les coachs, parce qu'il y a aussi des places limitées, entre les kinés, pour savoir quel kiné va participer aux Jeux Olympiques ou pas.
Tu trouvais que ce n'était pas vraiment bienveillant, en fait, comme univers ? Un bienveillant.
C'est très compétitif. Et du coup, des fois, il y a les biais qui vont avec. Alors, en fonction des personnes, il y en a qui arrivent vraiment à faire la part des choses. Et la course, elle est sur l'eau de la ligne de départ à la ligne d'arrivée. Mais souvent, en fait, on voit que ça dépasse un peu partout. Ça va dans les relations interpersonnelles. Mais c'est des gens avec qui tu passes plus de 15 semaines de ton année avec.
Ouais.
Des fois, ça dépasse encore le cadre sur des politiques sportives, sur des modes de sélection, sur des choses un peu plus ambiguës. Et en fait, moi, ça me pesait trop. Et après avoir perdu mon ami, j'avais plus envie de ça. En fait, j'avais vraiment envie de me dire, mon temps, il est précieux. Et je veux le passer avec des gens que j'aime vraiment, à faire des choses que j'aime vraiment.
La notion de plaisir.
Peut-être que l'équipe de France, en fait, elle m'offrait plus ce cadre-là.
La notion de plaisir, en fait, elle est devenue primordiale pour toi à ce moment-là, quoi. Ouais. Ça a été un déclic, le décès de ton ami aussi, ça a été un déclic vraiment de te dire, ok, ça sert à rien que je m'emmerde la vie avec des trucs, des fois, qui sont pas forcément complètement plaisants ou épanouissants, autant que...
Ouais, parce que finalement, les Coupes du Monde, c'est tout le temps aux mêmes endroits, quoi. Une fois que t'as fait 5, 6, 7 compétitions à Prague, t'en as fait 5 à Augsbourg en Allemagne, 5 à Leipzig. Tu sais, c'est aussi des endroits qui sont pas toujours hyper cool. Mmh.
Puis c'était de l'artificiel aussi.
C'est de l'artificiel, c'est du béton. Finalement, tu t'arrives sur un site de Coupe du Monde, tu t'entraînes une fois par jour sur le même bassin tous les jours, et puis soins kinés, vidéo, récupération. Et finalement, c'est très répétitif et tu viens très vite t'enfermer un peu dans site de compétition, hôtel.
Ouais.
Et tu voyages sans avoir le temps de... Même si tu sors et que tu vas faire des choses, sans vraiment avoir le temps de découvrir le pays dans lequel t'es, de rencontrer les gens du pays.
Et ça, c'est ce qui t'a fait basculer, on va dire, du côté extrême de ton sport qu'est le kayak. Et c'est comme ça que tu t'es... comment ça s'est passé, la bascule? En fait, à quel moment t'as vraiment laissé tomber complètement le circuit pro classique pour te lancer dans des défis plus personnels?
Alors en fait, c'était très progressif, parce que quand j'ai commencé le kayak, mon père a commencé aussi, plus ou moins en même temps. Et donc moi, j'étais dans le groupe des petits poussins, des Benjamin, pipous. On s'entraîne, on fait du slalom.
T'avais 5 ans, je crois, quand t'as commencé, donc t'étais vraiment toute petite.
Ouais, et mon père, lui, avec ses copains, eux, ils étaient en mode touriste, quoi. Ils allaient faire du kayak de rivière, ils avaient... Ils faisaient des barbecues et ils faisaient du camping, quoi. Ils n'avaient pas le bidon avec les merguez accrochées à l'arrière de leur kayak, mais c'est tout comme. Et du coup, j'ai toujours eu un peu ce lien, parce que de temps en temps, en fait, ils m'emmenaient avec eux. Et donc, j'ai toujours fait de la rivière un peu au milieu des saisons de slalom. Même juste avant des grosses saisons internationales où je partais faire de la rivière, et puis les entraîneurs et le staff de l'équipe de France, des fois, ils se tiraient un peu les cheveux. Puis après, j'ai eu un entraîneur qui comprenait, et donc qui me laissait partir et qui me couvrait pour pas que je me fasse sortir ou repérer ou quoi. Mais le problème, c'est que des fois, tu te craches et tu t'arraches toutes les phalanges, donc ça se voit vite. Mais ouais, ça s'est fait très progressivement. En fait, j'ai toujours eu cette activité de compétition, mais j'ai toujours gardé une partie de kayak loisir en plastique. Et du coup, très progressivement, quand j'avais des trous dans la saison, ou quand je passais pas en équipe de France senior, mais qu'en équipe de France moins de 23 ans, en fait, j'en profitais pour soit aller faire du kayak freestyle, soit aller faire du kayak de rivière. Et du coup, je saurais pas vraiment dire s'il y a eu une vraie bascule ou un vrai renversement, mais en tout cas, le slalom, j'ai arrêté en 2017, quand je me suis fait sortir du système fédéral, parce que je perdais tout mon... j'avais déjà perdu tout le soutien financier, parce que j'avais pas les résultats pour prétendre à avoir des aides. Mais le moment où j'ai vraiment perdu la possibilité de rester avec mon entraîneur sur le pôle de Pau, je me suis dit que c'était quand même un investissement, en fait, trop gros sur le plan financier, de dire je vais continuer, je vais me payer un entraîneur privé, je vais me payer tous les créneaux d'eau, et puis, on verra. Parce que je me disais, en fait, cet argent, je pourrais vraiment l'investir pour faire quelque chose que j'aime plus.
Parce que là, toutes les dépenses t'incombaient, en fait, à partir du moment où t'as été sortie du système.
Ouais. Une fois que tu sors du système, c'est vraiment à toi de te débrouiller. Et puis, si tu re-rentres en équipe de France, tu peux à nouveau prétendre à avoir des aides. Et donc... Donc, en fait, je préférais aller voyager et aller descendre des belles rivières plutôt que de continuer à faire des tours sur le bassin artificiel de Pau, quoi.
Et le premier, donc ça fait depuis 2017, tu l'as dit, que tu fais ce qu'on appelle du kayak extrême. Il n'y a pas vraiment d'autres dénominations.
Kayak de rivière.
Kayak de rivière.
Les deux fonctionnent.
C'est marrant parce que le mot extrême, moi, quand j'ai regardé des interviews de toi ou quand j'ai regardé des vidéos, le mot extrême, il est noté partout. C'est vraiment Nouria Newman, kayak de l'extrême, performance extrême. C'est vraiment le truc extrême. Du coup, je me suis dit, vas-y, ça veut dire quoi en fait extrême? Parce que c'est hyper abstrait. J'ai été regarder, j'ai même noté la définition du Larousse.
Ah vas-y, c'est quoi?
Mais donc qui dépasse les limites ordinaires, qui est très éloigné du juste milieu de la moyenne. Et j'ai trouvé ça hyper marrant, je me suis dit ok, donc en fait, enfin déjà la moyenne, oui très bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas dans la moyenne, tu te sens d'ailleurs, et je me suis dit, ah oh, c'est rigolo, je vais lui poser cette question, mais est-ce que tu te sens pas dans la moyenne, tu te sens pas ordinaire si on reprend les termes du Larousse?
Alors, je me sens pas ordinaire dans le sens où les gens de ma promo à Sciences Po ou mes copains, tu vois, ils sont en train d'acheter des maisons, ils se marient, ils font des enfants. Là, je me sens pas dans la moyenne parce que j'habite chez mon père, j'ai pas vraiment de voiture, je possède la moitié d'une voiture d'occasion qui tombe en panne et qui a plus de 200 000 km. En ce sens-là, je me sens pas trop dans la moyenne, tu vois. Tu croises tes amis du collège et du lycée, ah, toi, ta vie...
J'ai 3 enfants, je
suis... Ah, toi, non, mais toi, t'as de la chance de pouvoir faire ce que tu fais. Puis, ouais, 3 enfants, une maison, un mari. Moi, j'ai rien, en fait. Mais je l'ai choisi, mais j'étais là-bas. Ouais, mais c'est pas de la chance, quoi. Tu fais tes choix, à un moment donné. En ce sens-là, tu vois, je suis pas trop dans la moyenne. Des fois, c'est un peu oppressant. Hein. Des fois, tu te dis, ouais, est-ce que je fais pas tout à l'envers, quoi?
Ouais. Tu te poses vraiment cette question-là, quand même?
Bah ouais, quand même. Je suis partie de chez moi pour aller à l'internat faire du kayak à 11 ans. À 27 ans, j'ai reménagé chez ma mère. Là, avec le Covid, j'ai reménagé chez mon père. Je me dis, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Bon, trop tard. Mais après, pour revenir au mot extrême, je pense que c'est un mot qui est très vendeur, qui est très utilisé par les gens du marketing. C'est du kayak extrême, c'est du skateboard extrême. Tout devient extrême, tu vois, bientôt ils vont faire du segway extrême pour se balader dans Paris, pour aller au travail. En vrai, la trottinette, ça a l'air vraiment extrême à Paris, pourtant personne dit c'est la trottinette extrême.
C'est
quoi.
Carrément extrême, non, moi je fais du vélo à Paris, je t'assure, le vélo c'est aussi extrême dans Paris. Hein.
Bah, je pense que finalement t'as plus de risques en vélo à Paris qu'en kayak, et ce qui est problématique pour moi, c'est qu'en fait, tu commences une activité, c'est vraiment du kayak de rivière. Et pour moi, ce que je fais, c'est pas différent de ce que mon père fait avec ses copains. C'est juste que bah, tu progresses et du coup, tu vas aller descendre des rapides plus difficiles, des rivières plus difficiles. Et il y a plus de risques, mais au final, c'est vraiment dans la continuité de l'activité un peu plus aventure et découverte du kayak. Et en fait, je ne saurais pas te dire à quel moment ça devient extrême, parce qu'il y a des accidents sur des sections de rivière faciles. Et au final, bah souvent, en fait, tu ne te rates pas sur les rapides les plus difficiles. Tu te rates parce que tu ne fais pas attention, parce qu'il y a des pièges ou parce qu'il y a des risques objectifs que tu n'avais pas réussi à anticiper. Et du coup, bah je ne sais pas à quel moment c'est extrême, à quel moment ça ne l'est pas, quoi.
Ouais.
Et nous, en fait, en kayak, c'est un peu bizarre parce que ça pardonne énormément. Donc, en fait, tu tombes, tu bois la tasse. Après, il ne se passe pas grand-chose. Tu tapes un peu un caillou. De temps en temps, tu as du bleu. Et après, dans la chronologie un peu des blessures que tu peux avoir, c'est direct, tu te casses le nez. Après, tu te casses le dos et tu es noyé, quoi.
Ouais.
Et tout au milieu, t'as un grand nombre de mauvaises lignes, en fait, où ça pardonne, mais finalement, très vite, t'arrives à la conséquence fatale, et que dans d'autres sports, y a pas. Et du coup, de dire ça, c'est extrême, ça, c'est pas extrême, c'est très, C'est très subjectif au final.
Je rebondis parce que tu parles de ligne d'eau. En fait, ton sport, c'est pour comprendre, parce que moi, perso, tu vois, le seul lien que j'ai avec le kayak, c'est quand je vais me balader en vacances avec un kayak et quoi, tu fais du...
Les gorges de l'Ardèche, ouais.
Exactement, que j'ai fait il y a 2 ans. Forcément, tu vois, ce genre de truc que tout le monde fait en mode loisir. Voilà, moi, les seuls moments où j'ai été dans un kayak, c'était ça, tu vois. Donc, quand on parle de ligne d'eau, parce qu'en fait, c'est hyper... c'est primordial, toi, dans ton sport. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce qu'en fait, limite, quand on parle, j'ai un peu l'impression qu'il y a limite un truc de mathématiques, en fait.
En fait, c'est un peu comme en ski, où ta ligne, ce serait ta trajectoire. Après, l'eau, elle est tout le temps en mouvement. C'est des mouvements d'eau cycliques, donc il faut réussir à les lire, à les anticiper. Et en fait, on choisit une trajectoire et puis on s'y tient pour descendre un rapide. Et c'est vrai que si tu sors de cette ligne, souvent tu pars au crash parce que tu vas avoir un petit rouleau ou une petite vague. Un rouleau, c'est comme une machine à laver, tu vois, c'est un truc qui te retient, ou une vague ou un rocher. Et donc c'est vrai qu'en fait, on est un sport de glisse et de trajectoire où il faut vraiment analyser, calculer, bien choisir. Un peu comme ce qui se fait en ski freeride ou en fait si tu rates ta ligne, peut-être que tu vas finir par tomber, quoi.
Ouais. On va arriver dans tes voyages, parce qu'on a commencé un peu par expliquer d'où tu venais, ce que tu avais fait, et depuis quelques années maintenant tu as beaucoup voyagé. Je dis en vrac l'Inde, la Patagonie, le Canada, l'Islande. Là, l'Islande, t'as sorti un documentaire sur ton dernier voyage en Islande, c'est ça?
Ouais.
Et l'Équateur aussi, là, très récemment, il me semble. Tu reviens d'Équateur?
Ouais, je reviens d'Équateur. Après l'Islande, il fallait un pays chaud.
C'est clair.
Après le pays chaud, là, je veux juste de la neige.
Mais comment tu fais pour choisir tes voyages? Comment tu les prépares? Comment tu les choisis? Pourquoi tel ou tel pays?
Alors, en fait... Je suis un peu une geek de Google Earth.
Ouais.
Si j'ai rien à faire, je vais vite commencer à regarder des cartes, faire des recherches, à penser à des rivières ou des zones. Et c'est comme ça, en fait, que tu arrives à trouver des rivières et à trouver des projets de première descente et d'expédition. Là, c'est vraiment la partie qui me plaît le plus, parce que déjà ça te permet de faire du très beau kayak et quelque chose qui a jamais été fait et de partir un peu à l'inconnu, mais ça te force aussi à voyager différemment. Et après, le niveau de recherche le plus précis, c'est vraiment d'aller au bout de ces routes et de sonner chez les gens et de leur demander sur les niveaux d'eau, s'il y a un chemin, s'il y a un accès. Et du coup, ça permet de vraiment rencontrer les locaux. Souvent, ils nous aident. Des fois, ils nous hébergent. Des fois, ils nous font à manger. Et il y a des liens d'amitié qui se créent. Et pour moi, ça, c'est la plus belle manière de voyager, parce que on est ces espèces de gringos qui arrivent avec des trucs en plastique de toutes les couleurs. Et en fait, du coup, des fois, t'es même pas obligé d'aller vers les gens. C'est eux qui vont venir. Ah, c'est quoi ça? Et puis, s'il fait chaud, tu veux essayer. Et puis, on fait un petit cours de kayak improvisé. Et ça crée du lien, ça crée des belles rencontres et ça permet de vraiment voyager différemment, ce que tu peux pas faire si tu vas juste d'une compétition à une autre.
Mais ça c'est une fois que t'es parti.
Ça c'est une fois que t'es parti.
Donc, est-ce que
avant de partir, c'est de l'ordi, c'est des autres descentes, des destinations un peu classiques.
Mais ça t'est déjà arrivé de partir et de te rendre compte qu'en fait t'allais pas pouvoir faire ce que tu voulais?
Quasiment tout le temps, en fait. Tu pars et puis t'as un projet en tête et tu te rends compte que c'est en train de complètement changer. Moi, j'étais partie en Inde pour faire 2 semaines d'expé avec un groupe d'Allemands. On s'est fait arrêter pendant 2 semaines par la police parce qu'en fait, ils ne voulaient plus nous laisser naviguer. Ils nous avaient refusé les permis, c'était trop dangereux. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, non, mais moi, je ne rentre pas en France. Je vais rester en Inde plus longtemps. Et je suis partie à l'autre bout de l'Inde pour faire un solo. Ce n'était pas du tout prévu. Et à peu près à chaque voyage, il se passe quelque chose où la météo, les conditions, la police font que, bah, en fait, tu es obligé de constamment t'adapter et de changer les plans. Donc, tu pars avec une idée. Puis, des fois, en fait, ça marche. En Patagonie, on est parti. L'objectif, c'était vraiment de faire une première descente qui était le Rio Año Nuevo. Et le Ben Stooksbury, donc c'était son projet. Lui, il l'avait déjà essayé 2 fois. Il n'avait jamais eu les fenêtres météo. Enfin, c'était l'enfer. Et nous, en fait, on est arrivés. On s'est dit, bon, les fenêtres météo, c'est trop compliqué. C'est quasi sûr, on ne les aura pas. Donc, on en profite pour faire plein de choses sur la route ou dès qu'on pense qu'il y a une opportunité, on fait autre chose. Et au final, on s'est retrouvés avec 4 ou 5 premières descentes à réussir à faire le triple crown alors que bah, on avait vraiment juste pour ambition de faire l'Año Nuevo et puis de faire d'autres trucs à côté. Mais on ne pensait pas qu'on réussirait vraiment à avoir toutes les fenêtres qui s'alignent et et de pouvoir tout réussir d'un coup. Donc des fois, bah, tu vas quelque part, ça marche bien, t'as gagné. Et des fois, tu vas quelque part et puis t'as rien.
T'es obligé de... Ouais, tu t'adaptes en permanence, quoi. Et c'est pas là que ça devient... Ça devient dangereux, parce que tu prenais l'exemple de l'Inde tout à l'heure, où au début, tu partais avec un groupe d'Allemands et finalement, tu t'es retrouvé à faire un solo d'une semaine en Inde, où d'ailleurs, ça s'est pas très très bien passé, je crois. Je conseille à tout le monde d'aller voir la vidéo de Red Bull sur YouTube, qui est hyper impressionnante, parce que tu documentes en fait tous tes voyages quasiment maintenant.
Ouais, j'avais échangé un billet d'avion contre mes Rush GoPro.
Ah ouais.
avec les Red Bull, avec les Indiens. Et après, en fait, les Indiens, ils nous avaient envoyé une première version de la vidéo montée avec du hard rock. C'était horrible, c'était hyper dramatique. Et là, je me souviens avoir envoyé un message à la responsable de Red Bull Aventure, qui était la productrice, Corina Aloran, en lui disant « Non, mais là, Corina, tu peux pas me faire ça. Enfin, tu peux pas, c'est horrible. » Et elle fait « Ok, on arrête tout. » Et puis, elle avait tout arrêté. Et on avait demandé à David Arnaud, qui est le réalisateur de quasiment tous mes gros projets maintenant, de prendre les choses en main. Et c'est vrai que David, il a ce pouvoir magique là de pouvoir transformer toutes mes images GoPro vraiment dégueulasses en une histoire qui tient la route.
Alors, je sais que c'est une question qu'on t'a déjà posée plein de fois et tout, mais forcément, en fait, je trouve que c'est une question que tu te poses quand t'es Madame Tout le Monde et qu'on voit ce que tu peux faire. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, quoi? Après quoi tu cours, enfin après quoi tu rames, pour faire l'analogie. Il y a vraiment qu'est-ce qui te pousse en permanence à partir, à faire des nouveaux projets, et c'est une autre question encore, mais qu'est-ce qui te pousse maintenant aussi à les filmer et à les montrer au plus grand nombre, en fait, parce que c'est un peu ça.
Alors, les filmer, c'est ce qui te permet de les financer, en partie. C'est compliqué maintenant, encore plus qu'avant. C'est pas comme à l'époque où tu pouvais avoir les expéditions nationales et représenter la France dans la traversée de l'Antarctique et du coup t'avais des financements comme ça. Maintenant, vu que ça passe toujours par des partenaires privés ou les gens qui vont t'aider à financer une expédition, ils ont quand même envie de savoir déjà si tu l'as fait ou pas. Et puis de savoir comment ça s'est passé. Et du coup, maintenant, c'est très compliqué de faire des choses sans y associer l'image. Même si tu prends le kayak de rivière par rapport au kayak slalom. Kayak slalom, en fait, c'était cool d'un côté parce que je m'entraînais. Et puis mon seul job, c'était de performer. Donc tu t'entraînes, tu fais ta course, tu ramènes une médaille, le job il est fait. Et en fait maintenant, en kayak de rivière, t'es plus libre. Je suis plus obligée d'aller faire les 5 coupes du monde aux mêmes endroits. Je peux choisir vraiment mes projets, mais par contre en fait il faut que j'ai l'idée, il faut créer un projet, il faut y penser, il faut le proposer, il faut faire en sorte de un peu le pitcher pour qu'il soit validé. Et derrière, il faut organiser toute ta logistique. Et du coup, en fait, tu finis par faire du kayak, mais il faut aussi que tu saches écrire un peu, que c'est mieux si tu sais filmer, prendre des photos, que tu maîtrises les réseaux sociaux. Et en plus de ça, il faut que tu fasses ta compta et tous les trucs un peu associés. En fait, tu es un peu un chef d'entreprise et ton entreprise, en fait, c'est toi. Enfin, c'est juste un peu bizarre, mais...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mais l'image, t'es obligé pour partir maintenant et pour vraiment en vivre, t'es obligé de faire l'image. Si tu veux faire du kayak tranquille que pour toi sans faire d'image, en fait, il faut avoir un autre métier à côté et prendre tes congés, aller faire du kayak, ce qui est bien aussi. Mais moi, ça me permettait pas de faire autant de kayak. Donc, vu que j'adore ça, que je veux en faire toujours plus, je me suis dit, faut filmer, faut faire de l'image. Et puis, c'est aussi c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai fait des études en journalisme, et après, j'ai fait une formation à l'INA en conception, réalisation de films documentaires. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. TikTok, beaucoup moins. J'y arrive pas, je comprends pas. Mais je pense que je suis juste trop vieille.
Je comprends pas non plus. On a le même âge, on est la même année. Je capte pas non plus.
Ça y est. Ça y est, on est vieux.
Voilà, faut pas dire ça, mon
Dieu.
Non,
mais c'est. Mais ouais, c'est pour ça qu'on fait de l'image.
Et sur la partie. Tu disais, je veux en faire de plus. Enfin, j'aime le kayak, c'est ce qui me fait kiffer. Je veux en faire de plus en plus. Est-ce que c'est possible déjà d'en faire plus que ce que t'en fais, ce que tu fais aujourd'hui? Et qu'est-ce qui te pousse à en faire encore plus? C'est quoi? C'est la passion? C'est les sensations? C'est...
Alors, je pense qu'il y a un peu de tout. Et c'est pour ça aussi que c'est bien, je pense, de se diversifier. Donc, même si je fais surtout de la rivière, il y a plein de types de kayak de rivière. Il y a les chutes d'un côté, les rapides à gros volume de l'autre. Les rapides ultra techniques comme on a un peu en France dans les Alpes ou des expés sur plusieurs jours. Et en fait, ça te permet de... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça me permet de vraiment varier et du coup, de pas me lasser parce que je vais avoir une période où je vais me dire « Ah tiens, je vais m'entraîner pour le championnat du monde de kayak extrême. » Donc là, je vais être un peu en mode essayer d'aller vite. J'ai pas fait ça depuis longtemps, donc ça risque de pas être glorieux. Mais... Et après, de passer sur un projet d'expédition où là, t'es plus à l'aventure. Finalement, tu navigues, mais il faut aussi que tu prépares les marches d'approche, les manips de cordes, toutes les choses qui y sont associées, les recherches, les images satellites, les images que tu peux avoir des locaux ou tout ce qui est à côté. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui me pousse à monter un nouveau projet, à faire une nouvelle chose. Donc des fois, ça peut être une rivière ou un pays où j'ai pas voyagé, qui m'attire vraiment. Là, j'aimerais vraiment retourner en Himalaya. Donc j'ai plusieurs zones déjà que j'aimerais explorer. Au Pakistan, dans le nord de l'Inde, mais plutôt vers la région de Manali. Il y a des endroits comme ça qui t'attirent et tu te diras... Ce serait trop bien d'aller là-bas ou même d'aller faire du kayak au Japon, tu vois, un truc un peu qui change ou que tu connais pas et que t'aimerais connaître. Et après, au niveau des sensations, c'est vrai que quand t'as pas fait de chute depuis longtemps, tu te dis, ah, ça ferait du bien là, de faire une petite chute, donc tu vas aller vers ça ou juste d'apprendre une nouvelle figure. Enfin, t'as toujours en fait quelque chose qui va te motiver pour bosser et pour essayer de... D'être encore, encore meilleur, tu vois.
C'est possiblement sans fin.
Ah c'est sans fin. Moi, mon mentor en kayak d'expédition, c'est Ben Stooksberry. J'ai beaucoup de chance parce qu'on s'entend bien et qu'en l'occurrence, c'est la personne là qui a fait le plus d'expéditions en tout genre avec un kayak. Et, Et il a encore cette flamme, quoi. Mais des fois, au
il
point où... C'est... Bah, il doit avoir 43. Mais ça fait... Ça fait depuis qu'il a 19 ans qu'il fait ça. Et il ne s'arrête pas. Mais des fois, il est fatigant, quoi. Non, mais viens, on va juste marcher 5 jours. Au pire, on remarche dans l'autre sens. Et puis, alors, lui, il pense qu'un kayak, c'est un sac à dos. Donc, ça ne lui pose pas de problème.
Ouais, parce que vous devez vous trimballer vos kayaks sur le dos.
Moi, ça me pète le dos. Je suis au bout de ma vie sur ces longues marches d'approche, tu vois. Au moins une ou deux fois par jour, je pleure, tu vois, à un moment donné, tellement j'ai mal ou j'en peux plus. Enfin, bon, je me planque un peu, pas toujours, mais... Et lui, nickel, quoi.
Mais tu te projettes sur une vie comme ça aussi, à 43 ans, de continuer à faire des expés, à continuer d'avoir ton kayak sur le dos.
C'est ouais, quelque chose non, qui... je pense qu'à 43 ans, c'est mort, je porte plus mon kayak sur le dos.
Tu payes quelqu'un pour te le prendre.
Non, je sais pas, en fait, je me dis que tant que t'aimes ça et que tu peux le faire et que c'est ce que t'as envie de faire plus qu'autre chose, ben, autant profiter de cette opportunité-là. Ça durera probablement pas, mais c'est quelque chose que... En fait, c'est quelque chose, je me dis, bah, tu peux le faire maintenant, mais l'inverse, ça marche pas.
Mmh.
Tu peux pas dire, je vais faire autre chose et puis je vais revenir à ça parce que c'est juste pas possible. Tu perdrais trop. Je pense que tu serais plus capable d'être performant dans ce que tu fais. Alors que là, bah, je peux faire ça et puis éventuellement passer à autre chose après. Donc, tant que ça me plaît et tant que c'est ça qui...
Ouais, tu vois, mais c'est un truc, je me posais vraiment la question parce que je me dis quand pendant 20 et quelques années de ta vie, t'as vécu des sensations fortes, enfin des ce que j'imagine qu'il y a toutes les sensations qui sont aussi forcément reliées à ton sport, à ce que tu fais et tout. Est-ce que t'arrives vraiment un jour à t'en passer?
Bah je me dis que là en fait on fait ce qu'on fait aussi parce qu'on est capable d'avoir peur et de se mettre dans des situations pourries et d'aimer ça. Parce que des fois c'est hyper cool et tout. Ouais, c'est trop bien, t'as des bonnes sensations, il fait pas froid, il fait chaud, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Ça c'est vraiment dans les films en général. Et puis la vraie vérité, c'est que des fois il y a pas d'eau, la rivière elle est pourrie, t'as froid, t'as peur, y a rien qui va. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent type 2 fun, les Américains, tu vois.
Mmh.
C'est qu'il y a une part de toi qui est un peu bizarre et qui aime aller te mettre dans ces situations galères. Pourries, qui aime avoir mal et souffrir un peu, et qui aime avoir peur. Et je ne sais pas si ça peut durer toute la vie. Quand je vois Ben, il adore avoir mal, il adore avoir peur. D'ailleurs, on va se mettre dans des situations horribles où en fait on est coincé dans un canyon, on ne sait pas si on peut sortir. C'est la panique, on est tout blanc, tout tremblotant à se faire des espèces d'escalade dans la jungle en s'accrochant à des branches pourries. Et là, je me dis, bon, bah là, on sort, enfin, c'est bon, c'est fini quoi. On va rester sur des classiques, on a raté la saison, c'est la saison des pluies, on ne peut pas. Et le lendemain, ah, on pourrait essayer ça. Et puis t'es là, mais non, non, voyant rouge. Et donc lui, il adore ça. Donc je sais pas à quel moment t'arrêtes de plus aimer avoir peur ou de plus aimer souffrir, mais il y a peut-être un moment où ça va arriver, quoi.
Mais si tu le suis, c'est que toi aussi t'aimes bien ça au final. Parce que sinon, tu mettrais un no-go.
Là, je lui ai mis des stops en Équateur. J'étais là, non, 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 c'est mort, on n'y va pas. Mais moi j'adore ça. Il y a rien de plus gratifiant que de souffrir, mais vraiment. Pendant 3 jours pour faire une rivière qui... Tu sais pas si c'est possible, t'as peur, les portages, ils sont compliqués. Physiquement, bah, tu t'es un peu au bout de ce que t'es capable de faire. Et quand t'arrives à... C'est un peu comme un problème que tu résous. Et puis quand t'arrives à faire chaque petit mouvement, à faire chaque étape, et que finalement t'arrives à descendre une rivière hyper complexe et à résoudre cette espèce de puzzle géant, là c'est hyper gratifiant, et c'est pour ça aussi qu'on le fait, quoi.
Mmh. J'ai écouté une de tes interviews et à un moment donné tu dis une phrase un peu anodine comme ça, et je me suis dit waouh, mais c'est super intéressant. Tu disais, en fait, le kayak, à la base, c'était un moyen de transport. Ouais. Et je me suis dit, bah ouais, oui, effectivement, le kayak, à la base, c'est un moyen de transport, tu vois. Et je me suis amusée à décortiquer le mot et je me suis dit, putain, ce mot est passionnant. Parce que dans le transport, t'as le mot trans et t'as le mot sport, tu vois. Et je me suis dit, waouh, est-ce que finalement, tu vois, ce mot-là, il résume pas un peu ton sport, le côté t'es dans un truc tellement puissant que t'es dans une espèce de transe et en même temps bah c'est un sport. Est-ce que je suis partie complètement en live avec cette analyse ou pas?
Ouais, j'y avais jamais pensé comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un outil qui te permet d'aller dans des endroits où personne va. Et quand tu te dis ouais là en fait t'en es les premiers à être passés dans ce canyon. Ça a quelque chose d'un peu magique parce que on voit des choses uniques quoi. Et puis à chaque fois il t'arrive des trucs, tu sais, les gens ils disent ah ouais le gros rapide machin, le gros rapide truc. Souvent quand tu rentres et puis des années plus tard quand tu repenses à une expé, tu te dis ah ouais, te rappelles là l'ours, ah et puis ouais. On avait vu un bébé renard, il était mignon. Ah, et on avait mangé ça. Et en fait, c'est tous les à-côté un peu de l'aventure qui font que c'est beau, quoi.
C'est ça, maintenant, limite, qui est, toi, plus important que la performance en elle-même et le maxi-rapide que tu vas descendre. Ça prend plus de place, maintenant, ton environnement.
Ouais, les deux se combinent, en fait. Quand t'arrives à... Si t'as que des gros rapides et que c'est à côté de l'autoroute, tu vois, ça enlève du plaisir, quoi. Mais c'est vrai que si t'es dans un endroit magnifique et que t'as zéro gros rapide, bon, bah, ça t'enlève aussi du plaisir. Et c'est vraiment d'avoir la combinaison des deux qui est géniale. Après, bah, je pense que vraiment le paysage, les nouveaux endroits, ça prime sur l'adrénaline pure. Mais de résoudre ces problèmes pour arriver à mettre en place une descente, ça, c'est la chose que je préfère, quoi. Mais ça commence devant ton ordi sur les images satellites et ça se finit vraiment dans la boue. Tu rentres dans la boue et t'as froid, quoi.
Ok. Et est-ce qu'il y a un moment qui a été particulièrement marquant pour toi ou une rencontre qui a été inoubliable?
Moi, la plus belle rencontre humaine, c'est aussi parce que j'étais dans un état psychologique un peu particulier en Inde. Où en fait, je venais de me rater, donc j'avais eu beaucoup de chance, je suis passée sous un siphon, donc en gros, pour faire court, j'ai failli me noyer, j'avais peur, j'avais froid, ça allait pas du tout dans ma tête, parce que j'étais sur un solo, donc après j'étais toute seule un peu à me battre avec l'accident, à le repasser en replay pendant toute la journée, puis toute la nuit, puis tout le lendemain, à devoir continuer à descendre. Et en fait, des rapides qui étaient pas très durs me faisaient peur. J'avais des peurs irrationnelles, des angoisses. Et puis, tu te retrouves un peu en face du pire de toi, quoi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peur du noir cette nuit-là parce que j'allais pas bien, que... T'as des petits traumatismes du passé qui remontent. Et là, en fait, c'est ta psychanalyse en puissance 10 accélérée. Genre, ça va pas du tout. Et je me disais, de toute façon, là, faut sortir. Et je continuais pas par courage. C'est juste que j'avais pas le choix. Moi, si j'avais pu m'airdropper dans le salon de ma mère avec un câlin et un chocolat chaud, je vous jure, je l'aurais fait tout de suite. J'aurais cliqué. Et j'aurais pu faire ça. Et en fait... À un moment donné, ça allait pas et il y avait des apprentis moines qui lavaient leur linge au bord de la rivière et quand ils m'ont vu arriver du haut, ils criaient, ils me faisaient des signes de venir et du coup, je me suis arrêtée. Je leur ai prêté, ils ont tout de suite tiré le kayak, je leur ai prêté tout mon matériel et ils ont joué avec pendant que je discutais avec leur instituteur. En fait, ils parlaient, les gamins, ils avaient 8-9 ans, ils parlaient français, ils parlaient anglais, c'était impressionnant. Mais en fait, c'est surtout que en les voyant jouer avec mon matériel, je me suis dit, mais attends, c'est ça. Moi, j'ai commencé le kayak, je croyais que c'était un Playmobil, le truc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je le fais parce que ça m'amuse, parce que j'y prends plaisir, parce que j'aime ça. Et là, si t'es pas capable de retrouver du plaisir et de t'amuser et de jouer avec l'eau, eh ben, faut que t'arrêtes. Et en fait, de les rencontrer, ça m'a vraiment changé. Ça m'a fait un déclic dans ma tête où j'ai dit, ouais, t'es là pour profiter. Et au lieu de juste ressasser l'accident et d'aller pas bien, bah, j'arrivais à vraiment me concentrer sur les belles choses qui m'entouraient, sur le positif. Et c'est en ce sens-là où ça a été ma plus belle rencontre, parce que c'était vraiment la piqûre de rappel de pourquoi je faisais cette chose qui est si insignifiante. Quand je dis aux gens, mon métier, c'est du kayak, ils me regardent, ils me disent, ouais, non, mais moi aussi, hein, j'ai fait les gorges de l'Ardèche, tu vois. Je le vois bien que c'est pas un vrai métier, que c'est pas... Enfin, j'en ai conscience, mais en même temps, bah, ces gamins-là, ils m'ont rappelé que j'avais une chance incroyable et que c'est un luxe, en fait, de pouvoir faire des ronds dans l'eau et prétendre que c'est ton métier, quoi.
C'est une deuxième rencontre avec toi-même. Un peu, en fait, cette rencontre avec les... C'est ce que je ressens, genre, ça t'a permis de te reconnecter
à ton...
Ouais,
c'était un coup de pied dans les fesses où... Non, mais là, t'es en train de te planter et ils m'ont remis un peu dans le droit chemin, quoi.
Ça me fait penser à ce qu'on se racontait avec Marion Herty, là, il y a peu de temps, où elle me disait qu'elle, elle observait aussi que son environnement était en train de changer, que la neige se faisait plus rare, qu'elle était de moins bonne qualité... Toi, c'est pareil, en fait, t'es dans aux quatre coins du globe. Est-ce que toi, c'est des choses que t'observes aussi ?
Bah, nous complètement. Par exemple, sur une rivière en expédition au Canada qui s'appelle la rivière Glendening, je l'ai faite en 2014 et après en 2017. Et en fait, des rapides, le lit de la rivière en haut avait complètement changé avec le recul du glacier. Donc ça, c'est des choses, tu te dis, mais en 3 ans, en fait, le glacier, il a reculé de plus de 100 mètres. Tu le vois, c'est une réalité qui est là devant tes yeux, c'est hyper, hyper dur. Les saisons de navigation en Europe, elles sont de plus en plus courtes, il y a de plus en plus de barrages. C'est-à-dire de rivières complètement asséchées où en fait, bah, les écosystèmes de toute une vallée, ils ont été détruits pour parfois faire un barrage qui produit pas grand-chose, parce qu'en fait, on se rend compte que cette rivière-là, c'est un peu un pissou et qu'en fait, au niveau production d'énergie, c'est presque rien. Ça, on le voit... On le voit vraiment au quotidien. Là, en Équateur, si on prend un des canyons là, du Coca, c'est un désastre. C'est un désastre naturel et social avec toute une rivière qui a subi de l'érosion. Et les Chinois qui ont construit un méga barrage sur cette rivière, alors que c'est dans une zone hyper proche d'un volcan, que le barrage il est rempli de sédiments et que du coup... Bah dans 5, je sais pas, déjà je pense qu'il va être emporté par l'érosion, mais en plus il produit pas, il est pas rentable, quoi. Il produit pas ce qu'il devrait produire, c'est une catastrophe. Ça, on le voit, la qualité de l'eau. Là je rentre de voyage, j'ai chopé une méningite et la leptospirose, parce qu'en fait l'eau est polluée et qu'on navigue dans de l'eau sale. Tu bois la tasse en Inde, bah tu vomis pendant 48 heures derrière. Ouais. Le changement climatique, la pollution, c'est vraiment quelque chose auquel on est confronté au quotidien.
Du coup, on va passer aux deux dernières questions un peu pour clôturer ce petit moment, qui sont des questions qu'on pose à chacune de nos invités. La première, c'est est-ce qu'il y a un moment qui a vraiment été marquant pour toi, un moment de sport que tu as vécu toi, ou un moment de sport que tu as vu et qui a été constitutif de ta personne, ou qui t'a donné une motivation, ou voilà, un truc qui a été vraiment marquant pour toi?
Je pense qu'un moment important, c'était en 2002, il y avait les championnats du monde de kayak slalom à Bourg-Saint-Maurice, donc en France. Moi, j'avais 10 ans, j'étais au club de Bourg-Saint-Maurice. Et comme tout enfant du système des clubs de kayak en France, mon héros, c'était Tony Estanguet, Fabien Lefebvre, tu vois, les gens des posters. Et je me souviens être allée demander mes posters donc à Fabien et Tony, avec qui j'étais en équipe de France plus tard. Et en fait, Nouria, c'est un nom un peu bizarre. Donc, Tony, il avait dû signer pour Dora. Et Fabien, il avait signé pour Gloria. Et je me souviens, moi, enfant de 10 ans, j'étais là. Mais en fait, les mecs nuls. Des posters, ils savent même pas épeler un nom. Et je me disais, mais c'est trop nul, en fait. J'étais trop déçue, tu vois. Moi, je les voyais comme des demi-dieux sur les posters, là, avec leurs médailles et tout. Et en fait, ouais. Ils savaient pas, ouais, ils avaient même pas fait une petite dédicace, tu vois, j'étais juste hyper, hyper triste, tu vois, ils écrivaient mal et en plus ils m'avaient appelé Gloria et Dora, tu vois. Et du coup, j'étais hyper déçue et à côté de ça, en fait, t'avais des toutes petites nations qui étaient pas dans les fonctionnements équipe de France et notamment t'avais Heather Jewell qui avait 20 ans, qui courait pour la Nouvelle-Zélande, l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'était elle toute seule. Et en fait, après chaque entraînement, elle passait 15-20 minutes à jouer avec nous sur le lac, à nous coacher ou juste à faire du kayak avec nous. Et ça, c'était vraiment décisif parce que je m'étais dit « Ah ouais, en fait, tu peux être un champion et courir au championnat du monde et en même temps aimer le kayak et jouer avec... avec nous, quoi, avec des gamins de 10 ans. Mmh. » Ce que personne de l'équipe de France aurait fait... à l'époque, enfin je crois pas, mais de toute façon en plus c'est tellement structuré que ils finissent leur séance, ils ont tant de temps pour faire leur récup et après ils montent dans les camions et puis ils ont un programme très établi alors que les petites nations font ce qu'ils veulent et c'est eux leur chef, comme un peu comme moi maintenant. Plus ce que je veux parce que c'est ouais les gens des posters, ils ont arrêté d'être des demi-dieux et au lieu de ça, mes héros ou mes sources d'inspiration, je pense que ça a toujours été des athlètes plus humains. Et après, forcément, Tony et Fabien, quand j'étais en équipe de France avec eux plus tard et qu'ils connaissaient mon nom, et ben là c'est
devenu... Tu leur as mis dans les dents, j'espère, non?
Je crois pas. Là, c'est devenu des vraies sources d'inspiration, tu vois. Quand j'arrive ma première année en équipe de France et que moi, tous les bassins, je les découvrais, j'avais pas fait 5 années de Coupe du Monde dessus et que Fabien me fait « Ah, mais t'as jamais navigué à Bratislava ?» Bon, viens, on fait la séance ensemble et qu'en fait, il me donne des clés techniques pour que ce soit plus facile pour moi de bien prendre mes marques sur ce nouveau bassin. Bah, ça, c'est des expériences un peu uniques, mais ouais, le coup des autographes, c'est vraiment quelque chose qui a changé, tu vois. J'aime plus trop les gens des posters. Enfin, je les aime bien, mais il faut d'abord les connaître, tu vois.
Ou alors, il faut avoir un nom plus classique. Hein. L'histoire de ma vie avec Cléo, si tu veux, pareil.
Chloé.
Exactement. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, le podcast s'appelle Championne du monde. Quelle est ta définition d'une championne ?
Il y en a plein. Moi, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui fait quelque chose de cool. Il y a 2 ans, je me suis retrouvée sur une rivière et là, il y a une dame... de loin, tu vois pas si c'est une dame ou quoi, mais t'as quelqu'un qui arrive en kayak, tout seul, avec... C'était une rivière super facile, les coudières, le casque intégral. Et tu sais, de loin, le premier truc que tu penses, tu fais « Mais c'est qui ce pimpin ?» Et puis elle arrive, et puis elle était... Je vois que c'était une vieille dame. Et elle était toute seule, et puis elle suivait un raft de loin, mais elle était pas vraiment avec le raft. Et puis nous, on s'était arrêtés pour manger un bout. Et on allait continuer la descente. Et du coup, je lui demande « Ah, mais vous naviguez toute seule ?»« Ouais, mais je suis pas trop sûre de moi. » Alors, j'ai demandé au raft si je pouvais les suivre et s'ils pouvaient jeter un œil. Et du coup, je me suis dit « Bah, nous, on descend. Si... » Vu que c'était une section de rivière facile et qu'il n'y avait aucun risque, tu peux proposer à des gens que tu connais pas de descendre avec toi. Et du coup, je dis « Bah, nous, on va descendre. Si vous voulez aller plus loin, on peut descendre tous ensemble. » Et donc, du coup... On est descendu ensemble et en fait, de loin, moi je pensais que c'était une pimpin, tu vois, le bronzé fond du ski du kayak. Et en fait, en parlant avec elle, je me suis dit, mais c'est mon héros en fait, cette dame c'est mon héros. Elle avait commencé le kayak, elle avait plus de 55 ans et là elle avait 68 ans. Moi quand je l'ai rencontrée, elle faisait du kayak, donc elle avait commencé super tard. C'est hyper ingrat comme sport pour commencer super tard. Et son mari lui conduisait la voiture pour venir la chercher pendant qu'elle faisait son kayak, qu'elle se faisait plaisir. Et je me suis dit, mais en fait, elle est, c'est une championne, quoi. Et du coup, pour moi, c'est ça, une championne. C'est Yuli, 68 ans, qui a commencé le kayak sur le tard. Et peut-être elle descendra jamais des rapides les plus fous, mais elle a tellement de joie quand elle est sur l'eau. Et puis, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire. Et donc, ça, c'est beau, quoi.
Vraiment. Bah, trop bien. Bah, merci beaucoup, Nouria, pour ce moment passé dans cette petite chambre d'hôtel. Ouais. C'était hyper chouette. Et puis, bah, écoute, à la prochaine pour continuer cette discussion, parce que j'ai pas dit la moitié de mes questions. je suis dans la frustration, là, maintenant.
Non, ouais. Mais c'est parce que c'est un moyen de transport. C'est une machine à histoire aussi, le kayak. C'est ça qui est cool.
Merci beaucoup pour ton temps. Et écoute, bonne continuation et bonnes futures expéditions à toi.
Ouais.
Et au plaisir de se recroiser.
Merci.
Merci beaucoup, Nouria. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt!